France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La lutte anti-drogue à l'épreuve de la corruption, de plus en plus de policiers, douaniers, gendarmes concernés. Une enquête est ouverte à la PJ de Marseille. Perquisition la semaine dernière, explication dans un instant. Et puis nous serons dans l'un des pays plaque tournante du trafic mondial de la drogue, la Birmanie, où la junte militaire fait face à une puissante rébellion. À suivre encore, votre déclaration d'impôt en France. Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour Jérôme.
Coup d'envoi aujourd'hui avec des nouveautés.
Oui, inflation, smartphone, travailleurs indépendants et étudiants sont les mots-clés de l'année.
À tout de suite pour vos explications. Nous serons aussi dans la Marne avec une écrivaine publique qui aide les contribuables à télédéclarer. Ça n'est pas toujours évident. Plus de 600 emplois supprimé par le pétrolier Exxon près du Havre. Explication dans un instant. Alors qu'à la pompe, les prix grimpent.
114,35€ pour 60 litres. Ça fait mal.
Je fais petit homme par petit homme et surtout, je guette le carburant à prix coûtant parce qu'on va pas se mentir, c'est très avantageux.
On est passé à l'électrique à cause de ça. On a une voiture électrique pour les petits trajets et une voiture gasoil pour les grands trajets.
Reportage dans la Loire. Nous parlerons aussi des colonies de vacances délaissées par les plus jeunes. Le gouvernement lance un pass colo, une aide financière pour les enfants âgés de 11 ans. À 13h30, un des grands mythes de notre histoire, les Cathares. Une exposition leur est consacrée en ce moment à Toulouse et elle fait recette. Pourquoi les Cathares ont-ils été inventés et pourquoi nous passionnent-ils? On en parle avec nos invités, avec vous. 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France. 2024 est une année à asperges, nous dira Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest. Et puis juste avant 14h, nous retrouverons le chanteur Raphaël pour sa carte blanche. Aujourd'hui, il nous parle et il nous chante les mots de l'actrice Delphine Seyrig. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Le procureur de Marseille l'avait dit clairement et publiquement il y a un mois devant la commission d'enquête parlementaire sur le narcotrafic. Je le cite, on commence à avoir de plus en plus de problèmes de corruption de fonctionnaires de police. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Manifestement, c'est un sujet national. On va voir ça avec vous dans une minute. D'abord, allons à Marseille, puisqu'on a appris aujourd'hui qu'une enquête était ouverte pour des soupçons notamment de corruption. Elle vise des enquêteurs de l'office anti-stupéfiant de la PJ de la ville, donc c'est l'OFAST. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Marseille. Mathilde, une perquisition a eu lieu dans les locaux de ce service la semaine dernière.
Oui, c'est la hiérarchie de la police judiciaire marseillaise elle-même qui a signalé au procureur de la ville que des vérifications devaient être faites sur le comportement d'agents de l'office anti-stupéfiant lorsqu'ils travaillaient sur une enquête en 2023. Il faut savoir s'il y a eu des dérives, précise une source policière. Les soupçons de corruption et de violation du secret de l'enquête notamment portent sur un groupe d'enquêteurs ou une partie de ce groupe. Lors de la perquisition menée par l'IGPN, la police des polices, dans les locaux de l'antenne marseillaise de l'OFAST la semaine dernière. Des téléphones portables ont été saisis, mais à ce stade, il n'y a pas eu de garde à vue. Le procureur de Marseille indique qu'il ne fera aucun commentaire, mais vous le disiez, Jérôme, lors de son audition il y a un mois devant la commission d'enquête parlementaire sur le narcotrafic, Nicolas Besson avait fait part de son inquiétude, évoquant des problèmes de plus en plus fréquents de corruption des policiers face aux moyens, je cite, infinis des réseaux criminels.
Merci Mathilde Vinceneux pour ces informations. Emmanuel Leclerc, je me tourne vers vous. Ces dernières années, plusieurs affaires de corruption ont entaché l'image des forces de l'ordre.
Et on peut citer l'ancien chef des enquêtes douanières du port du Havre qui est tombé pour corruption, et puis l'ancien chef des stupes de la police judiciaire, François Thierry, soupçonné durant des années d'avoir été complice d'un trafic d'État avant de bénéficier d'un non-lieu, ou encore ces enquêteurs passés par le service des stupes du 36, la police judiciaire parisienne, qui ont fait ou font encore l'objet d'enquêtes pour corruption. Certains sont en détention provisoire.
Mais la nouveauté de ces derniers mois, Emmanuel, c'est que désormais toutes les strates sont touchées.
Ah oui, en fait, pour compléter ce que disait Mathilde Vinceneux, les plus hauts responsables européens de la police se sont rendus compte l'année dernière que dans chaque dossier stup, il y avait des soupçons de corruption d'un fonctionnaire de police ou autre, à chaque fois, même si la plupart du temps, comme l'a dévoilé en février dernier la chef de l'IGPN, Agnès Thibault-Lecuivre, il s'agit de consultations de fichiers, ce que l'on appelle en langage policier de la tricoche.
Ils vendent, très souvent d'ailleurs, sans avoir de contact physique, ils vendent ça via le Darknet, depuis parfois leur canapé, avec cette facilité assez déconcertante, pour des sommes qui peuvent paraître assez modiques d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus que grand nombre d'entre eux n'ont pas conscience de participer à une criminalité organisée.
En fait, Jérôme, les plus grosses affaires de ripoux dans les stupes, il faut le savoir, ce sont des agents qui volent, qui détournent les cargaisons saisies et deviennent eux-mêmes des narcotrafiquants. 50 kilos de coque volée au 36, un brigadier de nuit, toujours à Paris, qui remplaçait la marchandise par du plâtre, ou encore à Saintes, en Charente. Ces deux policiers qui laissaient du chocolat à la place du cannabis et de l'héroïne pour financer leur passion des courses automobiles.
Merci Emmanuel Leclerc pour ce décryptage. Un peu moins de 18 millions de contribuables sont concernés. C'est le début aujourd'hui donc de la déclaration d'impôt 2024 à faire en ligne. Les départements 1 à 19 et les non-résidents jusqu'au 23 mai. Les départements 2 à jusqu'à 54 jusqu'au 30 mai et les départements, vous suivez toujours, de 55 à 95 plus les DOM, c'est jusqu'au 6 juin. Et si vous n'avez pas d'accès internet chez vous, la déclaration se fait via le formulaire papier et là c'est jusqu'au 21 mai. On met le calendrier de côté, on regarde maintenant les nouveautés de cette année avec vous Mathilde Dehimi. Mathilde, vous étiez au ministère de l'économie ce matin. Dans le détail, quelles sont ces nouveautés?
Alors d'abord, pour tout le monde, la première chose c'est que comme l'an dernier, les tranches sont revalorisées pour tenir compte de l'inflation. Chaque seuil est rehaussé de 4,8%. On n'est donc pas à l'abri d'une bonne surprise pour ceux qui n'ont pas vu leur salaire augmenter l'an dernier. Ils pourraient payer un peu moins d'impôts. L'autre nouveauté qui concerne tout le monde, c'est qu'on peut faire plus de choses désormais avec l'application officielle sur smartphone, faire des déclarations simples, ajouter des personnes à charge, mais pas encore modifier sa situation maritale. Dans le détail, pour les travailleurs indépendants, deux déclarations sont fusionnées et pourront être modifiées ad lib pour coller au plus près de sa situation. Les étudiants rattachés au foyer fiscal devront tout de même bien déclarer leur propre logement, et ce, pour éviter, dit Bercy, de compter cette adresse comme une résidence secondaire soumise à taxe d'habitation. La niche Coluche, le remboursement d'une partie des dons s'étend aux associations promouvant l'égalité hommes-femmes.
Quelles sont les erreurs à éviter?
Alors n'oubliez pas de déclarer tout court déjà, et de déclarer tout ce qui est économie collaborative. Les locations de tourisme, par exemple, dans les grands classiques aussi noté par Bercy, oublier de rattacher son enfant désormais majeur, se tromper dans ses déclarations de dons, de frais de garde ou de pension alimentaire, ou encore oublier de cocher la case parents isolés.
Quelques conseils?
C'est le patron des impôts à Bercy qui insistait bien ce matin. Vérifiez dans votre espace numérique que l'adresse et votre numéro de téléphone sont bien à jour. Ça permet, dit-il, de vraiment résoudre bien des soucis de communication.
Merci Mathilde Dehimi. Alors vous nous l'avez dit, on peut désormais déclarer ses impôts avec son smartphone. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ont du mal avec les outils numériques, mais on peut se faire aider. C'est le cas à Châlons-en-Champagne, par exemple, dans la Marne. Depuis 4 ans, une écrivaine publique numérique est là pour vous accompagner dans vos démarches en ligne. C'est précieux, comme l'a constaté Jeanne Messia dans l'une des médiathèques de la ville.
Assise derrière son ordinateur, Marie Belcave invite ceux qui viennent lui demander de l'aide à s'asseoir juste à côté d'elle pour qu'ils puissent comprendre comment faire.
Je verbalise absolument tout ce que je fais, je leur montre ce qui se passe.
Magina est mère de 2 enfants, elle veut déclarer ses revenus.
J'ai reçu cette semaine.
Vous avez ouvert l'appli pour
non,
voir?
Non.
Déjà, on va commencer par ça. Vous l'avez l'appli ou pas?
Non.
Ah bon?
Eh ben, faut la télécharger.
S'identifier pour accéder à tous mes services. Allez, on y va. Avec le numéro fiscal.
Cela fait 2 ans qu'elle prend rendez-vous régulièrement.
J'ai l'assistante sociale, c'est elle qui nous a mis en contact.
Et c'est pratique?
Ah oui. Avant, je maîtrisais pas et tout ça. Quand je viens chez elle aussi, elle me laisse faire et pour que tu puisses apprendre comment ça fonctionne et tout ça.
Mais il y a aussi ceux qui sont incapables de prendre en main un outil. Alors Marie Belcave leur fait signer un mandat pour réaliser les démarches souhaitées.
On y note nos noms et prénoms. Alors Malika, ce qu'on a prévu de faire, la date du jour. On y note l'heure à laquelle on commence à travailler. Pardon Malika, je suis en retard. Et on y notera l'heure à laquelle on termine. Ça veut dire que j'ai le droit d'utiliser les données personnelles de Malika tant qu'elle est avec moi. Elle aide sa maman dans les gestes essentiels de la vie quotidienne. Donc on va déclarer ses heures et déclencher le paiement.
Chaque mois, ce sont 80 personnes qui sont accompagnées par Marie Belcave.
En reportage France Bleu Champagne-Ardenne. On a donc compris que ce n'est pas Bruno Le Maire qui a fait le service après-vente. Ce matin, sur la déclaration d'un d'impôt 2024. Non, le ministre de l'économie est dans les bagages d'Emmanuel Macron, tout comme celui des armées, Sébastien Lecornu. Visite du président et des deux ministres ce matin à Bergerac, en Dordogne, où est construite en ce moment une usine de poudre pour obus. Emmanuel Macron veut montrer que l'économie de guerre, qu'il appelle de ses voeux, est concrète. Bonjour Paul Barcelone.
Bonjour Jérôme.
Vous suivez ce déplacement qui est aussi l'occasion, Paul, de voir comment le président se comporte avec son ministre de l'économie, car il vient à peine de le recadrer.
Et alors vous pouvez compter sur moi, je les ai épiés, regardés, guettés, mais rien ne transparaît, pas même l'agacement réciproque du moment. Ils ont fait avion commun, Emmanuel Macron, truelle à la main tout à l'heure pour la pose de la première pierre, Bruno Le Maire légèrement en retrait. C'est, vous le disiez, la première fois qu'ils s'affichent ensemble depuis ce recadrage en coulisses. Bruno, ça fait 7 ans que tu es là, a dit le président à son ministre de l'économie, selon des propos rapportés par Le Figaro. Emmanuel Macron lui reproche en fait d'être trop alarmiste, trop anxiogène sur l'état des finances du pays, agacement à son paroxysme quand Bercy pousse pour un budget rectificatif. Le président n'en veut pas, pas question d'ouvrir la porte à une motion de censure, arme nucléaire des Républicains à l'Assemblée. Mais la hache de guerre est-elle vraiment enterrée sur l'autel de l'économie de guerre? Chose assez cocasse ce matin, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire donc mettent en scène une opération rabibochage, il fallait y penser Jérôme, dans une usine qui fabrique de la poudre et des explosifs.
Merci Paul Barcelone, en direct de Bergerac, avec les moyens techniques de Frédéric Kérou. Visite suivie également par des agriculteurs qui manifestent en ce moment dans Bergerac, une quinzaine de tracteurs, agriculteurs qui demandent toujours des mesures de soutien. C'est une action du syndicat Coordination Rurale. Le géant pétrolier américain ExxonMobil annonce réorganiser ses activités en France. D'abord, sa filiale Esso va vendre la raffinerie de Fos sur mer, ainsi que des dépôts de carburant. Ça, c'est dans le sud de la France. Et puis, l'activité du groupe va être réduite à Port-Jérôme, près du Havre. 677 emplois seront supprimés. Charlotte Coutard.
Ces suppressions de postes concernent les activités de chimie du groupe pétrolier américain à Port-Jérôme-sur-Seine. Des unités de pétrochimie vont être arrêtées définitivement cette année car elles ne sont pas économiquement viables, estime ExxonMobil dans un communiqué. Le site de Port-Jérôme-sur-Seine est victime de la concurrence asiatique, précise le groupe. La configuration du vapocracker SATA est comparée aux grandes unités nouvellement construites. Les coûts opératoires et énergétiques plus élevés en Europe le rendent non compétitif, explique l'industrie. Cet arrêt des unités en 2024 va entraîner la suppression de 647 postes à la plateforme de Gravenchon, qui en compte 850, et 30 postes supprimés au siège parisien d'ExxonMobil. Le projet a été présenté aujourd'hui. Le groupe promet de rechercher des solutions pour les salariés touchés par ces suppressions de postes. Des suppressions qui ne concernent pas la raffinerie de Port-Jérôme-sur-Seine.
Précision France Bleu Normandie. Parmi les raisons invoquées par le pétrolier à ce plan, il y a les coûts de l'énergie trop important et le développement des véhicules électriques. Un essor encore favorisé par les prix des carburants en ce moment, proche des 2 euros dans certaines stations, 2 euros le litre. D'où cette pétition lancée aujourd'hui par l'association 40 millions d'automobilistes pour demander à l'État de baisser les taxes et drastiquement jusqu'à 1 litre d'essence à 1,50 euros. Aurélie Jacquand, vous êtes allée à la rencontre des automobilistes dans le département de la Loire et ils n'ont pas attendu cet appel pour s'adapter.
1,50 euros le litre, la réaction est à chaque fois la même.
Ah oui, ça serait l'idéal, mais bon, ça à mon avis, avant qu'on l'obtienne, je pense qu'on peut se gratter.
D'autant qu'Alan se souvient du mouvement des Gilets jaunes qui avait démarré à cause d'un prix du litre autour d'1,60 €.
À chaque fois, c'est toujours le même phénomène, c'est qu'on vous calme en vous donnant des miettes de pain. Et derrière, une fois que les miettes de pain ont été distribuées, que ça a calmé tout le monde, on repart sur de plus belle, quoi.
Alors là, vous avez fait le plein?
Ouais, 114,35 € pour 60 litres. Ça fait mal.
Il fait 35 km tous les jours pour aller travailler. Solène non plus n'a pas le choix et elle a fait les comptes. C'est un budget de 200 euros par mois.
Je travaille à l'hôpital Nord et j'habite à Unieux, donc vers Firminy. Donc en soi, je pourrais m'en passer, mais il faudrait que je fasse 2 heures de bus. Je fais des horaires de poste, donc quand je suis du matin, il faudrait que je me lève à 4h du matin.
Alors elle a un peu changé ses habitudes à la pompe.
Je fais petite somme par petite somme et surtout, je guette le carburant à prix coûtant, surtout. Parce qu'on va pas se mentir, c'est très avantageux.
Il y a aussi ceux qui sont passés à l'éthanol, moins d'1 euro le litre, ou même comme Mathieu.
On est passé à l'électrique à cause de ça. Donc on a une voiture électrique pour les petits trajets et une voiture gasoil pour les grands trajets.
Quoi qu'il en soit, d'après l'INSEE, les transports et donc aussi la voiture font partie du top 3 des dépenses des ménages français.
Reportage Aurélie Jacquan, France Bleu, Saint-Étienne-Loire. On en parle beaucoup sur les routes, les refus d'obtempérer à l'origine de la mort du jeune Naël, tué par un policier en juin dernier. Eh bien, leur nombre a diminué entre 2016 et 2023, moins 5%. C'est la première fois que le ministère de l'Intérieur publie de tels chiffres. 97% de ces refus d'obtempérer sont commis par des hommes, surtout des jeunes moins de 30 ans, et autant dans les grandes agglomérations qu'à la campagne. Elles se battent contre les contrôles au faciès des forces de l'ordre. En octobre dernier, le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, a estimé que la pratique existait et constituait même une discrimination. Mais les juges s'étaient déclarés incompétents pour contraindre l'État à faire changer les choses. Alors, 5 associations et ONG saisissent l'ONU aujourd'hui, car l'État français s'était engagé au niveau international en signant une convention contre le racisme et les discriminations. Myriam Matari est avocate, elle représente 3 de ces associations dans cette procédure.
On est sur les obligations internationales de l'État français à se mettre en conformité avec cette convention qui a été historiquement signée par la France. Et donc là, l'enjeu, c'est qu'ils respectent ces obligations internationales qui sont pas seulement de sanctionner quand il y a discrimination, mais de prévenir, de détecter et de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour que cette interdiction soit effective en France et qu'il y ait une réelle protection des victimes et des personnes ciblées. On demande à ce que soient réaffirmées ces obligations absolues, hein, puisque les discriminations raciales ne souffrent aucune dérogation.
L'avocate Myriam Matari avec Ariane Grissel. Une agression au couteau hier soir en plein centre-ville de Bordeaux, sur les bords de la Garonne. Elle a fait un mort et un blessé. L'auteur présumé de l'attaque a été abattu par les policiers. Tout cela devant une foule très dense. La préfecture de Gironde va donc ouvrir une cellule d'urgence médico-psychologique pour soutenir les personnes choqué.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Ils sont au pouvoir depuis des décennies et étouffent tout espoir de démocratie. En Birmanie, les militaires font face à une rébellion qui ne cesse de progresser ces derniers mois. Le pays, coincé entre la Thaïlande, l'Inde et la Chine, est aussi le premier producteur mondial d'opium. L'enjeu économique est donc considérable pour la junte au pouvoir, qui a enregistré ces dernières heures une sévère défaite militaire. Ses troupes se sont retirées d'une ville stratégique de l'Est. Carole Izou est notre correspondante dans la région.
La ville de Miawadi, à la frontière thaïlandaise, est une plaque tournante commerciale et une étape importante sur un axe appelé l'autoroute de l'Asie. Depuis plusieurs jours, les combats entre les soldats des groupes armés Karen et l'armée birmane y font rage. Des centaines de soldats birmans se sont désormais rendus aux forces rebelles. Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères affirme que la Thaïlande est prête à accueillir 100 000 réfugiés birmans supplémentaires, alors que les combats ont déjà déplacé plus de 2 millions de personnes. Les groupes armés rebelles gagnent du terrain un peu partout dans le pays, particulièrement dans les zones frontières avec la Thaïlande, la Chine et l'Inde, face à une armée birmane de plus en plus fragilisée, mais qui détient encore les villes et les infrastructures principales du pays. Bangkok, Carole Izou, France Inter.
En Russie, la situation reste difficile. Ce sont les mots des autorités pour qualifier ce qui se passe dans la région d'Orenbourg, dans l'Oural, dévasté par des inondations historiques. Le fleuve Oural atteint un niveau qui dépasse la dernière marque, celle de 1942. Au total, en Russie et au Kazakhstan, autres pays touchés, plus de 100 000 habitants ont dû être évacués ces derniers jours. Ce qui n'empêche pas l'armée russe de poursuivre ses bombardements sur l'Ukraine. Une nouvelle nuit de frappes massives, plus de 40 missiles et 40 drones lancés, indique ce matin le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Moscou qui intensifie ses bombardements, Agathe Mahué, depuis plusieurs semaines, et cela contre des infrastructures énergétiques.
Et la défense anti-aérienne ne parvient pas à tout intercepter. Cette nuit, la majorité des drones Shahed lancés par la Russie ont pu être abattus, mais une vingtaine de missiles sont passés au travers des filets, dont 12 missiles S-300, particulièrement destructeurs. Ce sont les infrastructures essentielles que Moscou vise à nouveau dans tout le pays, de Lviv à Odessa, Kiev et dans le nord-est de l'Ukraine où nous nous trouvons, Kharkiv notamment, visé par plus de 10 missiles ces dernières heures, alors que la ville subit déjà depuis 3 semaines d'importantes coupures de courant. courant qui ne vont pas s'arranger. On croit revivre ici l'hiver 2022 quand la Russie s'est acharnée sur le réseau électrique ukrainien, mais c'est sans doute même pire à en croire DETEK, le premier fournisseur privé d'énergie en Ukraine, qui a déjà perdu 80% de ses capacités de production.
Agathe Mahué, correspondante d'Inter en Ukraine, le président ukrainien qui est en Lituanie aujourd'hui. L'essentiel est maintenant de tout faire pour renforcer notre défense aérienne, dit Volodymyr Zelensky après cette nouvelle attaque nocturne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle a été désavouée ce matin par les eurodéputés. Ils lui demandent par vote de renoncer au recrutement d'un eurodéputé conservateur allemand qui vient d'être nommé à un poste très bien rémunéré, mais des soupçons de favoritisme pèsent sur la présidente de la Commission qui est actuellement en pleine campagne pour conserver son poste à l'issue des élections européennes. Je vais vous épargner les jolies colonies de vacances de Pierre Perret dans ma voix, mais il y a un peu de ça tout de même dans la mesure que propose le gouvernement aujourd'hui. L'idée, c'est de renouer avec une époque à laquelle les colonies de vacances permettaient à des générations de jeunes Français de découvrir autre chose. Pour aider les plus modestes, le gouvernement annonce donc aujourd'hui une aide financière baptisée Passe Colo. Elle concernera cette mesure les enfants âgés de 11 ans, une aide qui pourra aller de 200 à 350 euros selon les estimations. 80% de ces enfants pourraient y être éligibles. Bonjour Anne Carayon.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de Jeunesse au plein air et de Partir et Devenir, une confédération qui organise précisément des colonies de vacances. Anne Carayon, les jeunes partent moins aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années?
Alors, par rapport à 20 ans, on peut dire oui. Aujourd'hui, en 2023, on a retrouvé le niveau de départ d'avant la Covid et ce niveau s'était stabilisé juste avant. Donc, tout l'enjeu du Pass Colo, c'est de faire en sorte que toute une génération puisse partir parce qu'on a vu avec les colos apprenantes que lorsque les enfants découvrent les colos, ils veulent revenir. Lorsqu'on lève le frein financier, nous avons des primo-partants, des enfants qui partent et qui découvrent la colonie de vacances pour la première fois.
Mais sur le temps long, on est vraiment sur une baisse de fréquentation.
Alors, sur le temps très long, oui, on est sur une baisse de fréquentation. Et pardon, je me permets de revenir sur votre approche. L'enjeu, c'est que les enfants partent en colonie de vacances, non pas pour recréer la colonie d'autrefois, parce que celle-ci n'existe plus, nos séjours ont évolué, mais parce que ces séjours permettent de répondre aux besoins des enfants d'aujourd'hui et aux besoins de notre société. C'est important qu'un enfant de 11 ans apprenne à découvrir d'autres enfants, apprenne l'autonomie, tout simplement, aille vers les autres simplement, découvre d'autres enfants qui n'ont pas exactement la même histoire, la même culture, et apprennent à vivre ensemble. Donc c'est vraiment un projet de société actuel, et on a un magnifique outil qui s'appelle la colonie de vacances.
Vous nous dites que le coût est une barrière, parce que le prix des séjours a beaucoup augmenté?
Le prix des séjours connaît, comme tous les produits malheureusement, une inflation, puisque dans un séjour, nous avons de l'alimentation, nous avons des transports, nous avons des salaires. Donc le tout augmente et malheureusement, nos séjours connaissent aussi cette augmentation. Et les familles ont besoin d'une aide. Aujourd'hui, avant la mesure du pass colo ou des colos apprenantes, des études nous montrent que les familles qui inscrivent leur enfant en colo sont les familles qui ont une aide par la CAF ou par la MSA, ou les familles très aisées. Donc on voit que la colonie de vacances plaît, mais les familles de revenus moyens, elles, n'avaient pas les moyens de faire partir leur enfant. Là, le pass colo s'adresse aussi aux familles qui n'ont pas d'aide CAF et MSA et qui ont un quotient familial à 1500, donc s'adresse à cette classe moyenne.
Est-ce qu'il y a toujours autant de centres, Anne Carayon? Il fut une époque où beaucoup de municipalités disposaient de centres pour que les enfants partent à la montagne ou au bord de la mer. Est-ce que c'est toujours le cas?
Alors non, les centres ont été vendus pour certains. Aujourd'hui, avoir un centre qui fonctionne 2 mois dans l'année, ça n'existe plus. Donc là aussi, nous sommes sur une évolution de nos structures, mais on peut partir en colo dans un centre permanent, parce qu'il en existe encore. On peut aussi partir en colo dans des lieux qui ne sont pas réservés pour les colos initialement, où on peut camper aussi. Donc, voilà. Mais il y a en effet un enjeu sur l'hébergement. On souhaite la multiplication de ces séjours.
Un dernier mot très rapide. Nous sommes début avril. Est-ce qu'il peut rester des places pour tous ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés pour inscrire leurs enfants pour
Bien
cet
sûr.
été?
Tout à fait. Et les séjours qui sont labellisés Pascolo, on va les retrouver sur la plateforme jeunes.gouv. Et ces séjours seront accessibles à partir du 15 avril. Donc il n'est absolument pas trop tard. C'est le moment, par contre.
Merci de cette précision. Anne Carayon, directrice générale de Jeunesse au plein air et de Partir et Devenir. Merci d'avoir accepté l'invitation de ce 13-14. Là aussi, c'est une évasion vers autre chose. Le cinéma et son grand rendez-vous annuel à partir du 14 mai, la 77e édition du Festival de Cannes. Les films en compétition viennent d'être présentés. C'était ce matin et vous avez suivi cette présentation. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
On a un peu dévoilé l'affiche hier dans ce 13-14, la grosse annonce du matin. C'est la confirmation du retour sur la croisette de Francis Ford Coppola.
Voilà, le film le plus attendu de la décennie sera donc bien présenté à Cannes et en compétition. Thierry Frémaux, le délégué du festival, l'a confirmé ce matin. Francis Ford Coppola est un homme de défi et il le prouve.
Avec Francis Coppola, c'est compétition ou rien. C'est-à-dire qu'il ne vient pas pour rigoler, quoi. Il vient vraiment parce qu'il veut montrer son film et il veut s'affronter aux jeunes cinéastes et figurer en compétition. Il a gagné 2 palmes d'or. Peut-être qu'il a envie d'en gagner une troisième. Il serait le premier, d'ailleurs.
Une compétition qui s'annonce riche par ailleurs en film américain. C'est un peu une surprise compte tenu de la grève à Hollywood l'année dernière. Paul Schrader, scénariste culte du film Taxi Driver, voit lui aussi son grand retour avec son nouveau film Au Canada, adapté d'un roman de Russell Banks avec Richard Gere et Uma Thurman. Comptez aussi dans les sélectionnés l'américain Sean Baker et quelques films à la tonalité très américaine. Le suédois Ali Abassi avec The Apprentice sur les jeunes années de Donald Trump et le français Jacques Audiard avec une comédie musicale sur les cartels mexicains avec Selena Gomez. Zoé Saldana, on l'attendait elle aussi, Emma Stone dans le nouveau film de Yorgos Lanthimos, Kirill Serebrennikov avec Limonov, Paolo Sorrentino ou encore le chinois Jia Zhongke.
Et puis parmi les réalisateurs français, on retiendra également le nom de Gilles Lellouche.
Qui est en compétition. Son précédent film, Le Grand Bain, avait bénéficié d'une projection en avant-première au Festival de Cannes. Il fait cette fois son entrée officielle en lice pour une Palme d'Or avec l'un des films français qui aura coûté le plus cher cette année, 32 millions d'euros. L'amour ouf, coécrit avec Audrey Diwan, dont le film Emmanuel ne figure pas à ce stade dans la sélection. Il y a au total 5 Français en lice pour la Palme d'Or. Jacques Audiard, on l'a cité. Christophe Honoré avec Chiara Mastroianni pour un projet autour de son père Marcello, dans lequel jouera aussi Catherine Deneuve. Et puis deux réalisateurs, Caroline Farja avec The Substance, film de body horror, on va frissonner de peur dans le Grand Théâtre Lumière, et Agathe Redinger, Diamant Brut, dans la lignée des Frères Dardenne. La sélection n'est pas complète, de nouvelles annonces sont à venir.
Merci Corinne Pellissier, on vivra tout cela avec vous à partir du 14 mai depuis Cannes. Merci également à Benjamin Troncin pour la liaison. Ils sont 2000 Marseillais attendus aujourd'hui à Lisbonne, mais ils ne savent toujours pas s'ils pourront assister ce soir au match de l'OM, quart de finale aller de Ligue Europa de football face au Benfica. Le club portugais veut interdire l'accès aux Marseillais car les supporters lisboètes n'ont pas reçu l'autorisation des autorités françaises de se rendre au match retour. Ce sera la semaine prochaine au Vélodrome. Lui va faire partie, c'est sûr, des 11 000 porteurs de la flamme olympique. Et si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que son histoire est plutôt étonnante. Il s'appelle Baptiste Moirot. Il a 29 ans. Vous allez nous raconter son histoire, Victor Vasseur. Bonjour.
Bonjour.
Il a été retenu parce qu'il est depuis plusieurs années une véritable coqueluche du web.
Oui, Baptiste est devenu un phénomène avec une vidéo diffusée en direct sur Facebook il y a 7 ans. On le voit torse nu en train de jouer avec le feu en plein milieu de sa chambre. Puis ses parents débarquent, très remontés.
Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net,
non? Non, je fais un truc.
Non, t'arrêtes ça, Baptiste. Mais t'es pas net, non?
Mais si, je suis très net.
Cet échange est devenu culte. Baptiste expliquera plus tard qu'il avait consommé des somnifères. Et donc, le jeune homme réapparaît dans cette vidéo publiée hier par Paris 2024, où il porte là la torche olympique.
Mais si, je suis très net.
Une vidéo virale, plus de 20 millions de vues rien que sur Instagram et Twitter, des réactions par milliers. Baptiste est un fan des Jeux, il porte en lui l'énergie des territoires qui entreprennent et font rayonner la France, expliquent les organisateurs. Baptiste Moirot est aujourd'hui chef pâtissier dans la Drôme, à Saint-Paul-Trois-Châteaux. À la base de cette histoire, une grande blague, un groupe Facebook créé il y a quelques années pour qu'il porte la flamme. Un groupe rejoint par 275 000 internautes. Comme Baptiste, vous le disiez, 11 000 autres relayeurs choisis par les organisateurs et des sponsors vont porter la flamme. Elle arrivera à Marseille dans un mois, le 8 mai.
Merci Victor Vasseur. À ne pas reproduire chez vous, non. Évidemment. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, cette grande exposition à Toulouse consacrée au Qatar. On parle du 13e siècle, mais aussi du 21e, parce que notre passion pour les Qatars en dit très long sur nous également. J'attends vos questions pour nos invités. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton. Comment sont formés les chiens policiers dont on parle beaucoup en ce moment? 13h50, c'est la France avec Marie-Luce Ribaud. Bonjour Marie-Luce.
Bonjour.
On cuisine les asperges aujourd'hui. Vous êtes plutôt asperges des Landes.
Oh, je suis 100% asperges des Landes, Jérôme, tout simplement parce qu'elles sont de chez moi. Nous allons d'ailleurs partir à Usa, un minuscule village où pousse une pépite à quelques kilomètres de l'océan.
Moi, je suis plutôt asperge d'Alsace. On en parlera tout de suite, Marie-Luce. Et puis, notre carte blanche au chanteur Raphaël qui aujourd'hui choisit la chanson d'une actrice.
Je ne fais pas une grande différence entre une fourmi et moi. Elle va, elle vient et puis recommence. C'est pareil à chaque fois.
Les mots de Delphine Seyrig, repris par Raphaël. Ce sera juste avant 14h. À tout de suite.
France Inter, partenaire de
Royan, la professeure de français.
De Marine Diaye avec Nicole Garcia au Théâtre de Paris pour 10 représentations exceptionnelles à partir du 17 avril. Nicole Garcia est la professeure de français dont la tranquillité est mise à mal par une élève.
Parfois mes élèves m'apparaissent comme de grands fauves que la faim a conduit dans ma classe. C'est de moi qu'ils veulent se nourrir, non de ma parole.
Royan, la professeure de français, au Théâtre de Paris, un spectacle France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est nuageux au nord, c'est ensoleillé au sud.
Oui, des nuages encore nombreux sur les régions voisines de la Manche jusqu'au bassin parisien et aux Ardennes, avec quelques gouttes de la baie de Seine au Pas-de-Calais. Du sud de la Bretagne et du nord de l'Aquitaine vers le centre Val-de-Loire et la Lorraine, là c'est plus mitigé entre nuages et éclaircies. C'est le soleil qui l'emporte en allant vers le sud et vers l'est, un petit peu voilé tout de même sur les régions du nord-est. On a toujours du mistral, de la tramontane, mais qui ne dépasse plus les 60 km à l'heure. Prudence sur les Alpes, le risque d'avalanche est parfois marqué. Les températures sont douces, 2 à 3 degrés au-dessus des normales, 15 à 19 degrés attendus au nord, 18 à 23 au sud. Demain, on aura plus de soleil après les grisailles du matin. Ça sera quand même plus variable de la région parisienne vers les frontières du nord. Il fera plus doux, 19 à 23 degrés au nord, 22 à 27 au sud. Et puis samedi, il va faire chaud sous le soleil, 25 degrés en moyenne au nord et 30 au sud.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Attention, voilà un mot piégé, à la fois magique et trompeur. Les Qatars. On les associe le plus souvent au sud de la France, au Moyen-Âge, au château, à la religion. On dit qu'on passe ses vacances en pays Qatar. J'ai même trouvé un fromage appelé le Qatar. Ce qui est vrai, c'est qu'ils déchaînent les passions et qu'ils sont l'objet d'autant de débats que de récupérations, d'où l'importance de l'exposition qui a ouvert ses portes à Toulouse vendredi dernier. Elle s'intitule « Qatar ». Entre guillemets, c'est important de le préciser, Toulouse dans la croisade, et nous en parlons avec nos deux invités, installés, bien installés dans les locaux de France Bleu Occitanie à Toulouse. Laure Barthé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la commissaire de cette exposition. À vos côtés se trouve Laurent Massé, bonjour.
Bonjour Jérôme Cadet.
Vous êtes historien spécialiste du Moyen-Âge, enseignant à l'université Jean Jaurès de Toulouse. Les auditeurs d'Inter peuvent vous interroger. 01 45 24 7000, il passe également par l'application France Inter. Laure Barthé, avant de parler de l'exposition, un mot d'abord du décor, de l'endroit, des endroits où elle se déroule, parce que ça n'est pas rien. Musée d'archéologie Saint-Raymond, tout près de la basilique Saint-Cernin, puis couvent des Jacobins, à quelques centaines de mètres. Là, on est près du Capitole, pour ceux qui connaissent la géographie toulousaine. Vous pouvez nous décrire ces lieux, Laure Barthé ?
Oui, tout à fait. L'exposition, c'est sa particularité. C'est une seule exposition en deux lieux. Donc, vous l'avez dit, à la place Saint-Cernin pour le musée Saint-Raymond, qui est aussi un monument historique, et un endroit sublime, le couvent des Jacobins, berceau de l'ordre des frères prêcheurs, dont on parle dans l'exposition, qui se situe à quelques encablures, à 5 minutes.
Alors, dans ce décor, on peut peut-être commencer... Laurent Massé, en dégonflant le mythe, peut-être avec vous, le mot Qatar était-il employé au moment de la croisade des Albigeois, puisque c'est de cette croisade dont on parle, entre 1208 et 1229? Est-ce qu'il existait ce mot?
Le terme est assez peu employé à l'époque, en fait, c'est un terme savant. Le mot qu'on utilise est le terme albigeois, puisque c'est ainsi qu'on désigne ces personnes considérées comme hérétiques. L'idée, c'est que l'épicentre de ce phénomène se trouve dans la région d'Albi.
Vous pouvez nous rappeler l'histoire et la genèse de cette croisade des albigeois ?
Alors, c'est une genèse compliquée, il faut la mettre dans un contexte politique et religieux, c'est-à-dire qu'il y a des conflits dans le midi de la France qui opposent les comtes de Toulouse à des voisins, et notamment au comte de Barcelone et au duc d'Aquitaine, et en fait, à ce moment-là, l'église romaine, je précise bien l'église romaine, ouais, tente d'imposer son autorité dans la région, et les dirigeants politiques vont utiliser, et l'église vont utiliser ce phénomène qui se développe pour... régler quelques conflits.
Alors, on parle d'albigeois à l'époque, et aujourd'hui, le mot cathare s'est imposé. Comment expliquer, finalement, ce retournement ?
Le terme cathare s'est surtout imposé au XIXe siècle, en fait. Ça reprend des données de l'historiographie dans des contextes qui sont ceux de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a un moment de nationalisme en France qui fait qu'il y a des combats idéologiques, religieux, et qui opposent catholiques et protestants, par exemple. Et par conséquent, les cathares vont être récupérés, plus ou moins, par différentes tendances de l'époque.
Et ce mot s'impose donc aujourd'hui. Pourquoi cette exposition Laure Barthé, et pourquoi l'avoir intitulée cathare précisément si ce mot n'était pas employé à l'époque? Est-ce que ça a pu faire débat entre vous?
Alors, ce mot a été employé à l'époque, c'est ce que dit Laurent Massé, dans un contexte très connoté et pour des raisons bien particulières, mais en tant que musée d'archéologie, le musée Saint-Raymond se saisit en fait de sujets très importants pour la région. On avait fait Visigoth en 2020 et donc il était temps d'aborder ce sujet, d'autant qu'il est intéressant de donner à voir, alors de manière très synthétique évidemment, les débats historiographiques en cours, mais pas que, c'est une exposition d'archéologues et d'historiens et donc c'est une plongée aussi dans Toulouse au XIIIe et dans la croisade contre les albigeois, une façon très concrète de raconter cette histoire, ce qui n'avait pas été fait avec autant d'objets jusqu'à présent.
Alors, qui étaient, Laurent Massé, ces albigeois, ces cathares? C'était des catholiques dissidents qui ne reconnaissaient pas justement l'autorité de Rome, dont vous venez de parler?
Ils sont considérés comme des catholiques dissidents de la part, justement, de l'autorité ecclésiastique. Ouais. Eux ne se considèrent pas comme des dissidents. Eux, ils se considèrent comme étant de bons chrétiens, de pauvres chrétiens. Ils se considèrent comme étant des bons hommes, c'est-à-dire ce sont des hommes et des femmes qui sont bien intégrés dans la société civile de l'époque et qui veulent vivre leur foi telle qu'ils la considèrent à ce moment-là. On est à un moment, il faut bien l'avouer, où, justement, la plupart de l'écriture sacrée, qui est une écriture en latin, est traduite en occitan. Et donc, ces hommes et ces femmes découvrent la parole du Christ dans leur langue, et par conséquent il faut bien voir que c'est une révolution extraordinaire.
Ils ont été écrasés à l'issue de cette croisade. Ça doit considérablement compliquer votre travail d'historien, parce que ça veut dire que peut-être les traces qu'ils ont pu laisser ont disparu après cette défaite.
Les traces, en fait, elles sont surtout données par les vainqueurs, c'est-à-dire par les inquisiteurs notamment. Mais justement, c'est tout l'objet de cette exposition, c'est d'essayer de retrouver des témoignages, et d'interroger les historiens et les archéologues pour essayer de mettre justement un peu plus de concret dans cette histoire et essayer justement de comprendre un peu plus ce que pouvait être l'état d'esprit, la mentalité de ces hommes et de ces femmes.
Le mot hérétique est régulièrement employé pour les désigner. Est-ce qu'il convient, Laure Barthé, où en sont les débats entre historiens? Je sais que tous ne sont pas d'accord.
Oui, alors le terme hérétique par définition est une accusation. On ne naît pas hérétique, on le devient aux yeux d'un accusateur. Les débats, en fait, ils portent sur ce mot cathare lui-même qui n'est pas neutre et sur la consistance de l'hérésie elle-même.
Pourquoi il n'est pas neutre?
C'est un débat qui est très complexe. Il n'est pas neutre parce qu'en réalité, même s'il a été employé assez rarement à l'époque médiévale, il vient de l'Antiquité, ce mot, et il désignait d'abord des sectateurs antiques, des croyants déviants de l'Antiquité. Et quand il ressurgit au Moyen-Âge, c'est sous la plume de polémistes catholiques qui vont chercher dans les écrits des pères de l'Église des éléments pour disqualifier les mouvements dissidents de leur époque. Et ce faisant, ils vont projeter sur nos dissidents à nous, si j'ose dire, des accusations, des éléments péjoratifs, sans forcément de rapport avec la réalité.
Donc sont les mots du vainqueur, si je puis dire.
Ce sont les mots, du vainqueur ou de catholiques savants qui n'ont pas fait une étude sociologique de terrain pour décrire l'hérésie et qui se sont conformés avec une mentalité très médiévale aux écrits de leurs prédécesseurs.
On a aujourd'hui les traces de châteaux qui existent dans la région, notamment dans le département de l'Aude, Laurent Massé. Les châteaux cathares qu'on visite, je pense à Montégur, je pense à Lastours. C'est une invention, ces châteaux cathares ?
Non, c'est pas une invention, parce qu'ils existent, ils sont bien concrets. C'est la pierre que vous avez en face de vous. Non, ces châteaux, ils ont été appelés cathares pendant une certaine époque, mais maintenant, on est en train de revoir un peu cette appellation. Ces châteaux, en fait, tels, les vestiges, en tout cas, que l'on peut voir actuellement, sont des vestiges d'une architecture capétienne, une architecture de châteaux qui ont été construits par des ingénieurs et, pour protéger une zone qui se trouve proche du royaume d'Aragon. Donc, ce sont pas des châteaux cathares, proprement dit, ce sont des châteaux plutôt capétiens.
Voilà, les sites Montségur ou Lastours ont été choisis par les cathares ou par ces communautés à l'époque, mais les pierres qu'on voit, elles n'ont pas du tout été positionnées ou ces châteaux construits par ces personnes-là.
Alors pour Montségur, Laure Barthé est une spécialiste, donc je vais lui donner la parole.
Alors le cas de Montségur est intéressant en effet, car au temps de la croisade, c'est un village fortifié en réalité, pas un château au sens restrictif du terme. Et c'est un site qui est particulièrement dans le collimateur du roi et de l'église, puisqu'à un moment, il se retrouve à héberger un certain nombre de chevaliers féidites, donc des résistants militaires, si vous voulez, dépossédés de leurs états, et qui constituaient une poche de réserve pour le comte de Toulouse, qui espérait, jusque dans les années 1240, renverser le sort de son territoire. Et donc Montségur a été pris lors d'un siège extrêmement célèbre en 1244, et à l'issue de ce siège, les seigneurs franciliens de Lévis, qui ont hérité de la terre de Mirepoix, ont fait reconstruire Montségur pour y imposer le château actuel.
Alors ce mot cathare a pris beaucoup de place, je l'ai dit, ces dernières années. On parle de pays cathare, de culture cathare, un peu à toutes les sauces, et il a inspiré cette chanson à Francis Cabrel, 1983, Les Chevaliers cathares.
On les a sculptés dans la pierre qui leur a cassé le corps, visage dans la poussière de leur ancien trésor. Sur le grand panneau de lumière, raconter aussi leur mort. Les chevaliers cathares y pensent encore.
Bon, c'est une chanson en réaction à une sculpture installée au bord de l'autoroute A61 intitulée Les Chevaliers cathares. Laure Barthé, les Chevaliers cathares, là encore, c'est une invention ?
Oh, c'est l'association des deux termes qui peut prêter à confusion. Il y a bien eu des chevaliers engagés dans la croisade contre les Albigeois, dont certains ont été accusés de protéger des hérétiques, oui. Mais bien entendu, c'est une image dont
les chevaliers à jambes doubles, si je puis dire.
Ah, il y a eu des Occitans d'ailleurs, qui se sont battus dans les rangs de la croisade. On l'oublie souvent, mais ce n'était pas non plus un mouvement totalement unitaire côté Occitan.
Anzic nous écrit via l'application de France Inter, cathares, templiers, quelle différence, Laurent Massé ?
Alors les templiers, c'est un ordre militaire religieux qui justement a été créé et protégé par le pape. Ce sont des chevaliers qui sont là pour agir en Terre Sainte, donc il n'y a pas vraiment de correspondance avec ce qui se passe dans le milieu de la France. Les templiers ne sont pas actifs et n'interviennent pas du tout dans ce conflit. C'est pas du tout leur objectif,
d'accord,
c'est pas leur mission.
Rien à voir. Pour revenir au Qatar, Laurent Massé, est-ce qu'on sait qui ils étaient précisément ? C'était des paysans, c'était des commerçants ? Quel type de personnes étaient impliquées ?
La sociologie de ce qu'on appelle donc les cathares est très variée, en fait, ça correspond aux membres de l'aristocratie. Certains princes ont été accusés d'être cathares, c'est le cas du comte de Foix, du comte de Toulouse. Ça concerne aussi les élites, ça concerne des notables, ça concerne des personnes qui sont des coqs de village dans le Lauragais près de Toulouse. Peut-être des paysans peut-être instruits, mais voilà, c'est une gamme assez étendue, le panel est large, et par conséquent, c'est pas du tout... C'est pas un mouvement ni populaire, ni totalement aristocratique. Ça correspond à la société de l'époque, tout simplement.
Alors, ce qui nous intéresse, c'est ce qui reste aujourd'hui. Ce qu'il en reste aujourd'hui, je reviens à la chanson de Francis Cabrel qu'on a écoutée. Elle prouve aussi, Laure Barthé, que ce mot est tombé dans la culture populaire. Pourquoi, selon vous, a-t-il pris autant de place ces dernières années ?
Oh, la thématique cathare concentre en fait des thématiques captivantes, rien que la croisade contre les Albigeois, qui est personnellement ce qui me passionne, c'est une histoire militaire à rebondissement qui lasserait les amateurs de Game of Thrones pantois. Il y a des personnages emblématiques tels Simon de Montfort, évidemment, c'est des histoires dramatiques, c'est très emblématique avec ces citadelles du vertige, donc ces fameux châteaux pas cathares. Donc tous les ingrédients sont là pour une histoire tragique, et qu'on le veuille ou non, c'est une histoire qui a profondément changé le visage politique de notre région. Moi, étant natif de Toulouse, je suis tombée dedans quand j'étais petite, et c'est très bien.
Pourquoi ça a changé le visage politique ?
Eh bien, tout simplement parce que le comté de Toulouse est entré dans le domaine capétien, en fait, à la suite de la croisade contre les Albigeois, après la capitulation des comtes et un intermède assuré par le frère de Louis IX, le futur Saint-Louis, eh bien, le comté de Toulouse est entré directement dans le domaine royal. Et donc, la dynastie raymondine s'est effondrée, en fait, à l'issue de la croisade contre les Albigeois.
On a cette question qui est aussi un témoignage de gêne. Je vous le soumets, Laurent Massé. Je suis originaire de Mazamé et le petit village d'Hautepoule a été attaqué par Simon de Montfort, venu de l'Île-de-France, écrit-il, pour réprimer ces personnes faisant de l'ombre à l'église. Ça revient à ce que vous nous disiez à l'instant, Laure Barthet.
Oui, il y a d'ailleurs dans notre catalogue un très bel article de Marie-Lise Gardel qui parle du siège d'Hautepoule. Et oui, il y a une réalité archéologique, militaire, historique hein, sur les sièges et combats lors de la croisade contre les Albigeois.
Est-ce qu'on puise dans cette époque peut-être ce qui nourrit aujourd'hui toujours un ressentiment ou un antagonisme, on emploiera le mot qu'on veut, de ces régions vis-à-vis de la capitale? Est-ce que ça peut trouver des racines dans cette époque?
Disons que oui, on l'explique aussi modestement dans l'exposition, la croisade et les Albigeois ont été récupérés en fait depuis l'époque moderne, constamment pour des raisons politiques en réalité. À la fois d'un point de vue régionaliste pour porter un discours anticlérical et anticentralisation, et à l'inverse, pour faire l'unité de la France. C'est-à-dire que quand Louis-Philippe commande pour Versailles un portrait imaginaire de Simon de Montfort, il veut illustrer les grandes figures qui, malgré les massacres, ont fait l'unité de la France. Donc on a ces deux convergences, finalement, pour des intérêts différents.
C'est-à-dire d'un côté des régionalistes qui utilisent, si je puis dire, cette histoire pour dire « il faut résister à Paris », et de l'autre côté, un pouvoir central qui se sert aussi de cette histoire pour quoi asseoir sa domination, c'est ce que vous nous dites.
Oh, plus exactement, pour faire l'unité de la nation, pour expliquer les massacres, on dit oui, ça a été terrible, on présente l'histoire de France d'Henri Martin dans l'exposition, c'est ce qu'il dit en substance, il y a bien eu des massacres, bon, c'est bien malheureux pour ces pauvres Albigeois, mais bon, malgré tout, ça a fait l'unité de la nation française.
Voilà. Gérard nous écrit via l'application France Inter, quand Paris va-t-il rendre à Toulouse l'original de la Canzone de la Crossada, chef-d'œuvre de la littérature occitane médiévale racontant la geste cathare. Il précise, document, que Paris s'est indûment approprié au 19e siècle. De quoi s'agit-il, Laurent Massé? Vous connaissez cette histoire?
C'est une histoire très, très intéressante, mais là, je crois qu'il faut laisser la parole à une conservatrice qui va nous parler justement de ce document.
Parce vous transmettez la patate chaude, Laurent Massé. Bon, je vous écoute, Laurent Massé.
Ah non, pas du tout.
Laurent Massé est un des spécialistes du manuscrit, mais en effet, je peux vous faire une réponse de conservatrice. Donc, ce manuscrit est conservé à la Bibliothèque nationale de France, où il est parfaitement bien conservé. La Bibliothèque nationale de France nous l'a prêté pour 4 mois. Vous pourrez l'admirer au musée Saint-Raymond, hein, pour la première fois dans un musée. Et c'est une histoire qui est relatée par Laurent Massé d'ailleurs dans le catalogue. En fait, on perd la trace de ce manuscrit au Moyen-Âge, il se retrouve dans le milieu des collectionneurs parisiens et heureusement pour nous, il a été ensuite acquis par les collections nationales, mais c'est le jeu de bien des collections publiques en France.
Oui, mais Gérard nous dit « Paris se l'est approprié ». Voilà, ça nous dit quelque chose aussi de la relation de certains Français vis-à-vis de Paris, vis-à-vis de la capitale, et toujours autour de ce sujet des cathares.
Non, ce manuscrit, en fait, il a été récupéré par des bibliophiles, et notamment par Colbert, qui était proche du roi. Donc, il faut bien voir qu'à l'époque de Louis XIV, il y a beaucoup de collectionneurs qui récupèrent un certain nombre de manuscrits d'un peu partout, de toute la France, pas uniquement que du Midi, et qui ont constitué des bibliothèques, ce sont des bibliophiles qui ont constitué des bibliothèques qui ensuite ont été transmises dans les collections actuelles.
Merci à tous les deux. Merci aux auditeurs aussi qui nous ont écrit. Je peux pas relayer toutes vos questions. Elles sont nombreuses. Vous trouvez les réponses dans cette exposition. Qatar, entre guillemets, Toulouse dans la croisade. C'est donc à Toulouse jusqu'au 5 janvier 2025. Musée Saint-Raymond et couvent des Jacobins. Merci à tous les deux. Merci également à France Bleu Occitanie. 13h47. Notre feuilleton, nous sommes avec les chiens policiers cette semaine. Alors nous avons assisté à leur formation ces derniers jours et aujourd'hui nous allons sur le terrain avec Ariane Grissel pour voir comment ces chiens sont utilisés. Direction la Seine-Maritime où l'on retrouve la brigade cynophile de Rouen.
Alors on est sur le site de l'école de police de Oissel qui est, comme vous constatez, hein, c'est vraiment, on est en plein milieu de la nature. Donc pour les chiens c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je suis le major Delcroix, je suis le responsable de l'unité canine, brigade canine de Rouen. Donc on est constitué de 19 conducteurs, 9 chiens d'intervention et 2 chiens stup. C'est l'intervention sur la voie publique avec l'utilisation des chiens pour défendre soit les fonctionnaires, soit les citoyens. Le fait de sortir un chien, ça a quand même tendance à figer la situation et à calmer les ardeurs. Bon, ici, c'est la salle de sport, hein, parce que chaque fonctionnaire se doit d'avoir une condition physique irréprochable. Et dans cette salle de sport, il y a également les casiers des chiens. Chaque chien a un casier d'attribué avec son matériel. Une muselière, un harnais, laisse et puis brosse pour enlever les poils noirs. On a Buck, on a Norton, Cisco, qui est un jeune chien, et Asco, pareil, qui est un jeune chien recruté récemment. Je les suis depuis dès qu'ils arrivent, en fait. Hein. C'est des fonctionnaires de police. Hein. Enfin, moi, je les considère comme des fonctionnaires de police. On a le numéro du box, donc le chien est dans le box 1. On a le nom du chien, on a son matricule administratif, parce que les chiens de la police ont un matricule, et on a son nom de naissance. Voilà.
Alors, la spécialité canine est considérée comme une unité d'appui aux unités primaires de la police, hein, que sont les unités de police secours, qui sont souvent les primo intervenants. Donc Gauthier Delahaye, commissaire de police, chef du service départemental de sécurité publique de l'agglomération de Rouen. Sur le terrain, ces chiens ont bien sûr une vocation d'être une arme aux côtés du conducteur canin. Ça a une vocation donc de tenir à distance les personnes qui voudraient perturber des contrôles de police. Une arme également de recherche de fugitifs, puisque les chiens ont une capacité olfactive bien plus développée et déployée qu'un humain. Ils ont une capacité de recherche sur quelques kilomètres. Il y a des textes et des doctrines internes à la police qui régissent son usage. Bien sûr, l'usage au mordant est considéré comme un usage en légitime défense, le 122-5 du code pénal qui s'applique à tous. Le chien a également une utilité sur les séquences d'ordre public lorsqu'il faut gérer des foules complexes. Ça permet d'avoir une présence très dissuasive qui maintient en bout de laisse à distance des groupes éventuellement hostiles.
Alors c'est un chien, alors lui pour le coup c'est un chien de refuge qui est vraiment particulier. Il peut très bien se comporter comme il peut très mal se comporter.
Mais c'est pas un danger ça sur la voie publique s'il sort
du cadre ? Parce que c'est maîtrisé par le fonctionnaire. Comme toute arme, hein, vous savez, une arme de poing qui est au ceinturon du fonctionnaire, elle est pas dangereuse. C'est la façon dont on va s'en servir qui peut l'être ou pas. L'action du chien est entamée par le fonctionnaire.
Je suis le brigadier chef Cyril Magnin, je suis moniteur cynotechnicien défense intervention. Pour les chiens que l'on recrute, généralement, soit ils ont mal été éduqués, soit ils n'ont pas été éduqués, ou soit ils ont des traumatismes. Notre but, c'est de faire prendre conscience aux chiens que l'homme est capable de bonté et qu'on lui veut pas de mal et qu'il puisse reprendre confiance en l'humain.
Je trouve ça extraordinaire de travailler avec les animaux et le chien est tellement, enfin, il nous redonne tellement puissance 1000 ce que nous on lui donne que ça a tout de suite matché. Quoi qu'il se passe, il est là pour nous défendre, pour nous assister. Il n'y a pas de mensonge avec lui. Soit il nous apprécie, soit il nous apprécie pas, mais c'est pas, il n'y aura pas de triche.
Une semaine dans leur vie, les épisodes disponibles sur le site d'Inter, suite et fin demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. À 13h51, le jeudi, nous parlons cuisine et gastronomie avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest en direct de Bordeaux. Marie-Luce, c'est la pleine saison des asperges et vous nous dites que c'est un produit symbole.
Oui, car les asperges sont au printemps ce que les cèpes sont à l'automne. On attend la première pousse avec la même fébrilité. Elle est d'ailleurs venue très tôt cette année, fin février. Mais ce que les asperges et les cèpes ont également en commun, c'est leur part de mystère. Elles jaillissent à l'air libre de façon aussi surprenante, sans logique. En 24 heures, elles peuvent grandir de 15 cm. Et sous le sol, comment dire, c'est le grand bazar. Comme la toile d'araignée de mycélium qui fait croître les champignons, un réseau enchevêtré de filaments bourgeonne ici et là, et ce sont ces bourgeons surgis des entrailles de la terre que nous dégustons.
Elles poussent sous des sols sablonneux, c'est ça ?
Sur des sols de pauvres, bien loin de ceux de la Beauce, mais des sols très drainants et qui se réchauffent vite, l'idéal.
Donc ça veut dire qu'elles se plaisent dans le sud-ouest ?
Exactement. Plus de la moitié de la production française, évaluée à 25 000 tonnes, se concentre en Gironde, dans la région de Blaye, et surtout dans les Landes. Je vous épargnerai les querelles picrocollines pour savoir lequel de ces deux terroirs est le meilleur, car vu de Berck-sur-Mer, la différence est très, très ténue. Mais le 1er mars, l'asperge blanche landaise a décroché le sacro-saint label rouge. Cela implique notamment de les expédier sous 48 heures après leur récolte. D'ailleurs, voici un tuyau pour repérer leur fraîcheur. Choisissez les fermes droites et regardez leur talon qui doit être brillant, humide, sans aspérité.
Et l'asperge est de plus en plus cultivée en bio.
La surface des exploitations en bio a triplé en 10 ans. C'est notamment le cas dans le village d'Uza, 196 habitants dans les Landes proches de l'océan. Ici, c'est l'autre fief de la famille de l'Ursalus, plus connu pour avoir été à la tête d'Ikem, le fameux vin de Sauterne tombé dans l'escarcelle de Bernard Arnault. Après la tempête Klaus en 2009, les forêts de pins ont été décimées. C'est à ce moment-là que mon père a décidé de se diversifier, raconte Philippe. Aujourd'hui, nous cultivons 22 hectares d'asperges bio et nous avons ce sentiment de perpétuer ce rapport de respect à la terre. Samedi, Sud-Ouest inaugure la nouvelle formule de son magazine de fin de semaine. Vous pourrez y découvrir un long reportage consacré à l'asperge d'Uza, adoré par Alain Passard, chef triplement étoilé et roi des légumes.
Et donc, restons dans ce village où un jeune chef sait cuisiner ses asperges.
Il s'agit d'Iliès Besançon, 23 ans, à la tête de la table du Marancin. Il les aime accompagnés d'une sauce hollandaise. Pour 4, vous faites ébouillanter 16 asperges de calibre moyen pendant 10 minutes. Parallèlement à feu doux, vous fouettez en formant des 8 4 jaunes d'œufs avec une cuillère à soupe d'eau. Quand l'ensemble épaissit, vous versez progressivement 250 g de beurre fondu. Mmh. Et oui, il faut ce qu'il faut. Vous rajoutez le jus d'un citron jaune, du sel, du poivre. Vous pochez 4 œufs dans une eau bouillante vinaigrée et vous assemblez le tout dans une assiette. Un meurtre sans des ciseaux qui brillent et comme des asperges sans sauce hollandaise. La citation est d'Hitchcock et ne pouvait pas mieux tomber.
Vous nous la refaites, Marie-Luce, un meurtre sans des ciseaux qui brillent.
Un meurtre sans des ciseaux qui brillent et comme des asperges sans sauce hollandaise.
Incroyable, voilà. Merci pour cette citation. Signé Hitchcock, merci Marie-Luce Ribaud en direct de Bordeaux. C'est parfait cette petite référence au cinéma, ça va nous permettre de retrouver tout naturellement le chanteur Raphaël pour sa carte blanche quotidienne dans ce 13-14. Raphaël qui choisit aujourd'hui une chanson interprétée par une grande actrice.
Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chanson très spéciale pour moi. C'est comme un secret, cette chanson. C'est ma femme qui me l'a fait découvrir il y a longtemps, peut-être 10 ans. C'est une chanson que je garde assez jalousement pour moi, quoi, vraiment. De temps en temps, je l'envoie à une amie, à un copain. Et à chaque fois, les gens sont très étonnés par la beauté, la malice, l'intelligence de cette chanson et la délicatesse de son interprétation. Et j'ai toujours peur, je me suis dit, je la donne publiquement et quelqu'un qui va la reprendre, qui va en faire une cochonnerie, je sais pas quoi, ça va pas me plaire, alors que c'est vraiment une telle élégance. Et puis là, maintenant, voilà, je vais livrer mon secret, enfin. C'est un secret que je voudrais partager avec vous. C'est une chanson qui s'appelle « Une fourmi et moi », chantée par Delphine Seyrig.
Tu ne fais pas une grande différence entre une fourmi et moi. À peine si tu soupçonne mon existence, et à peine si tu me vois. Je n'ai aucune espèce d'importance, je pourrais très bien changer mon apparence.
Je trouve que ce qu'elle raconte est...
Aller vivre dans les bois.
Assez universel, le fait d'être invisible aux yeux de la personne qu'on aime, quoi, de se sentir comme une fourmi, comme une poussière comme ça sur la veste de quelqu'un. Et je trouve que ça fait du bien de savoir que d'autres gens ont vécu ça. Et en plus, je crois qu'il y a quelque chose de très féministe dans cette chanson. Ça raconte aussi la condition de la femme, en tout cas telle que Delphine Seyrig le voyait à certains moments. Toute sa pensée magnifique, ses combats magnifiques aussi. Enfin voilà, je trouve que puis c'est comme une petite nouvelle, quoi. J'adore.
Et la fourmi, je lui fais confiance, pourrait tenir en toute compétence ma place auprès de toi.
Ça me fait aussi penser un peu à ma mère et à la sœur de ma mère, parce que ma mère ressemble à Delphine Seyrig et sa sœur aussi beaucoup. Donc j'ai l'impression que c'était comme une personne de ma famille. Même si je l'ai découvert très adulte, c'est comme si je l'avais connue dans ma toute petite enfance, cette chanson, comme si elle m'avait bercée. Alors voilà, j'ai longuement hésité avant de divulguer mon secret. C'est le moment, alors voilà le mien, c'est « La fourmi et moi » de Delphine Seyrig. Et moi je vais essayer de faire un tout petit couplet comme ça, si j'arrive. Je ne fais pas une grande différence entre une fourmi et moi.
Elle va, elle vient, et puis recommence. C'est pareil à chaque fois. Toute l'année, son fourbi, sa pitance. Elle va, elle vient, elle travaille en silence. Elle ne fume ni ne boit. Parcimonie, propreté, prévoyance. Probablement qu'elle me trouve immense. À condition qu'elle me voie. Je ne fais pas une grande différence. Sans trop bien savoir pourquoi. Pas de passion, même pas de romance. Elle ne rit pas, ni ne rêve, ni ne pense. Elle fait ce que doit. Activité, rendement, diligence. Elle ne sait pas ce que c'est que la souffrance, ni ce que c'est que la joie. On se retrouve demain pour notre dernier rendez-vous, nom de Dieu, c'est notre dernier rendez-vous déjà. On se retrouve demain, je vous embrasse.
C'est ça, la dernière demain déjà. Mais on peut prolonger le plaisir sur le site d'Inter. À demain, Raphaël. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme.
Quel est le programme aujourd'hui de la Terre au carré?
Eh bien, nous allons parler des humains de Denisova.
À tout de suite.